Alors le RN est-il en train de renoncer à toute une partie de son programme dans cette campagne des législatives? C'est en tout cas ce que dénoncent les adversaires de Jordan Bardella. Après la réforme des retraites qui ne sera pas touchée avant l'automne, ou l'interdiction du voile dans l'espace public qui ne se fera pas avant 2025, le président du Rassemblement National annonce que la TVA sur les produits de première nécessité ne baissera pas tout de suite. Ses adversaires, évidemment, s'en donnent à cœur joie. Vous les écoutez.
Je dis, il y a les urgences et les réformes. Cette suppression de la TVA sur les produits de première nécessité, elle interviendra à la rentrée dans le vote du budget au mois d'octobre sur l'année 2025.
La réalité, c'est que Jordan Bardella, et on le voit encore ce matin, il nous avait expliqué qu'il voulait baisser la TVA sur les produits de première nécessité.
Et il annonce évidemment, finalement que ce ne sera pas la priorité, qu'il baissera les taxes sur l'énergie, mais pas sur les produits de première nécessité.
La priorité pour lui, c'est surtout de donner des gages aux puissants et de laisser penser qu'il ne va rien bouleverser.
Là, on voit depuis quelques jours que s'agissant de Jordan Bardella, il y a de moins en moins de programmes et de plus en plus de conditions. Ça commence à ressembler à un refus d'obstacle quand même tout ça. Depuis le début de cette campagne, à chaque jour on voit un reniement.
Alors, Jean-Paul Garreau pour le RN, Astrid Panossian-Bouvet, députée sortante Renaissance, et l'avocat Charles Consigny sont restés avec nous. Et nous sommes rejoints par Bertrand Martineau, économiste associé à l'Institut Montaigne, par ailleurs ancien conseiller social du président Sarkozy à l'Élysée, et Anne-Laure Delatte, économiste, chercheuse au CNRS et auteur de « L'État, droit dans le mur » paru chez Fayard. Jean-Paul Garreau, quelle est la logique de ces reculs quand même de Jordan Bardella? Vous êtes contraint de renoncer à certaines propositions pour paraître plus crédible aux yeux des électeurs, c'est
Mais
ça?
Pas du tout. Évidemment, tout ceci est utilisé par nos adversaires. Non, le discours est très clair. Vous avez d'abord des mesures d'urgence. Ces mesures d'urgence doivent donc être prises immédiatement. Elles concernent principalement le pouvoir d'achat et la sécurité. Ça, c'est immédiat. Le pouvoir d'achat, c'est effectivement la baisse de la TVA sur toute l'énergie et les carburants. Baisse à 5,5.
Et pas sur les produits de première nécessité.
Non, mais ça, c'est l'urgence, si vous voulez. C'est l'urgence absolue. Donc, premier point, il y aura immédiatement après les élections une baisse des carburants dans des conditions significatives puisque la TVA passera à 5,5. Et vous savez évidemment que les carburants sont noyés de taxes à peu près 60%. Deuxième point très important qui interviendra tout de suite, c'est les questions essentielles concernant la sécurité. Alors sur la sécurité, en particulier sur la justice pénale, il y a évidemment beaucoup à faire. Et là, il y aura, premier point, nous voulons remettre en place, évidemment, tout ce qui concerne et qui a existé. J'entendais le garde des Sceaux qui disait que ce n'était pas constitutionnel, mais c'est faux, ça a déjà existé. Sur le retour des peines planchers, bien entendu. Sur le fait que tout ce qui tourne autour des violences notamment par rapport à des personnes dépositaires de l'autorité publique, tout ceci sera évidemment plus sévèrement réprimé. Le garde des Sceaux devra envoyer un certain nombre de circulaires de politique pénale immédiate à ses procureurs. Et les procureurs généraux surveilleront évidemment la bonne application de tout ceci par rapport au trafic.
Vous postulez à être garde des Sceaux, soyons simples.
Je ne postule pas, M. Calvi. Donc,
vous ne souhaitez pas l'être, donc.
Pardon ?
Vous ne souhaitez pas l'être et vous direz non si on vous propose.
Non, attendez. Premièrement, on n'en est pas là. Si cet insigne... Non, mais je vais répondre. Oui. Si cet insigne honneur m'était donné, je crois pouvoir dire que je saurais m'en montrer digne. Parce que je mesure toute l'ampleur de cette charge et tout l'intérêt pour la société.
Merci d'avoir répondu à cette question.
C'est évidemment très important. Donc, c'est des premières réformes d'urgence. Mais, si vous voulez, nous sommes responsables. Nous ne voulons pas dire n'importe quoi et nous allons faire ce qu'il faut. Et après ces mesures d'urgence, pour octobre, il y aura toute une série d'autres mesures. Et puis, il ne vous a pas échappé que certaines mesures ont besoin de modifications constitutionnelles, notamment par voie de référendum. Et là, il faudrait que le président de la République soit d'accord, évidemment, pour que nous lancions des référendums, notamment, par exemple, sur la primauté du droit, qui est du droit constitutionnel, qui est un point, évidemment, très important par rapport à la réforme des traités, qui est là aussi que nous avons vu récemment, évidemment, au Parlement européen. Donc, c'est un discours de responsabilité. C'est utilisé par nos adversaires pour faire croire qu'on se renie, etc. Ce ne sont pas des reniements, c'est de la responsabilité.
Vous interrogez pas ce que vous ne faites pas et vous me répondez parce que vous voulez faire, mais c'est très bien. Charles Consigny au RN, est-ce qu'on édulcore en ce moment le programme pour faire moins peur, pour dire les choses simplement ?
Oui, moi qui ne suis pas un fan du Rassemblement National, je crains que ce soit pas une mauvaise stratégie de leur part, si vous voulez. C'est-à-dire que je pense qu'ils sont dans une position où tout ce qui donnera l'apparence qu'ils se préparent effectivement à gouverner et qu'ils prennent les choses au sérieux contribuera d'une part à les crédibiliser et d'autre part à conduire des électeurs à voter pour eux finalement, puisque ça met dans l'esprit des gens que finalement ils sont sur le seuil du pouvoir et que les choses sont en train de se faire.
Illégitime à pouvoir gouverner.
Alors que la réalité des choses sur le plan électoral en l'état n'est pas la majorité absolue pour le Rassemblement National. Ce qui veut dire que les électeurs doivent quand même avoir en tête, ça plaira un peu moins au futur ex-ministre de la Justice, Monsieur Garot, putatif ou je ne sais pas comment le dire.
Pourquoi vous nous faites ce procès d'intention, Monsieur Gonsalves ? J'ai l'impression que vous avez un problème quelque part. Pourquoi ce mépris ?
Pourquoi
donner des leçons au monde entier ?
Mais je ne donne pas des leçons, j'analyse des choses. Je pense qu'il est quand même utile.
Bizarre.
Mais je viens de dire que c'était plutôt une bonne stratégie de votre part. Simplement, pourquoi est-ce qu'ils font ça aussi? Pourquoi est-ce qu'il y a cette espèce de coup de boost aussi dans leur campagne? C'est qu'en l'état actuel des intentions de vote, quand on regarde les sondages, le RN n'a pas le pouvoir.
Non.
Puisqu'il n'a que la majorité, il n'aurait que la majorité relative. Il est fortement contesté par la gauche, il y aurait beaucoup à dire, et malgré tout, il y a quand même quelques... Il y a quand même un certain nombre de sièges pour une force centrale qui ne va pas forcément être l'alliée du RN. Donc, en l'état actuel des choses, leur majorité absolue, ils ne l'ont pas. Tout n'est pas joué et le jeu reste ouvert, fort heureusement.
Est-ce ça
reste
que une ça élection, les gens peuvent choisir. À l'heure de l'âtre, on va dire que ce n'est pas de côté fait en ce moment par le responsable du RN qui se présente à nos votes. Pensez-vous qu'il est là pour rassurer les patrons, les milieux financiers et que c'est nécessaire
Effectivement, il y a eu pas mal de rétropédalage là, ces derniers jours et c'est assez difficile de comprendre, c'est assez confus en fait, parce qu'on nous a parlé d'abord d'une retraite, d'une abrogation de la retraite et finalement, ça n'est plus prévu. Si. On a parlé d'une taxe, effectivement, d'une réduction de la TVA et c'est ce dont vous venez de me parler. En fait, moi, je fais des additions, je suis économiste, et le principe d'un budget, c'est qu'il faut qu'il soit équilibré. Donc quand vous avez une dépense, il faut qu'il y ait une recette en face.
Absolument.
Or, la baisse de la TVA sur les produits énergétiques, elle a été estimée entre 12 milliards par le RN et 17 milliards par Bercy. On va faire une moyenne, on est à 15 milliards.
D'accord.
Aujourd'hui, il manque 60 milliards dans les caisses. Il ne vous aura pas échappé qu'on a un déficit fiscal assez important et qu'on est à 5,5% du PIB, c'est-à-dire au-dessus des 3% qu'il nous faudrait. Donc, on a déjà les caisses vides. Et le Rassemblement national, la seule mesure que je vois et que vous venez d'évoquer aujourd'hui, c'est de baisser cette TVA, mais ça coûte 15 milliards d'euros. Alors, qu'est-ce qu'on met comme recette en face ? Ce que j'ai lu vendredi dans un journal, c'est que on nous propose de supprimer une niche fiscale. C'est la niche fiscale sur les armateurs. Donc, je suis allée regarder, moi, dans mes chiffres, parce qu'encore une fois, je ne fais que des additions. Et cette niche fiscale sur les armateurs, qui a été effectivement, qui a coûté assez cher à l'État pendant le Covid, en fait, en moyenne, entre 2000 et 2020, elle coûtait 80 millions à l'État. Donc, si vous la retirez aujourd'hui, potentiellement, vous pouvez gagner 80 millions d'économies. Donc,
c'est rien.
Bah alors, en face de 15 milliards, ça ne semble pas grand-chose. Vous voyez, en face d'une baisse de TVA qui devrait coûter 15 milliards d'euros, donc en fait, c'est la seule mesure de pouvoir d'achat que le Rassemblement national est capable de donner aux Français, puisque la promesse du Rassemblement national, c'est de faire du bien aux classes populaires et aux classes moyennes. On baisse la TVA sur les produits énergétiques. En fait, ça coûte 15 milliards. Donc, soit ça veut dire qu'ils creusent encore plus le déficit, soit ça veut dire qu'ils vont couper ailleurs. Mais en tout cas, ils n'ont pas les recettes.
J'imagine que vous avez d'autres pistes d'économie.
Mais bien sûr, je veux dire, la politique, ce n'est pas qu'une succession de chiffres. Alors, je comprends ce que vous dites, naturellement. Il y a des choix budgétaires qui se font aussi, des orientations politiques avec des choix budgétaires. Et puis aussi, si vous voulez, il y a aussi notamment, et c'est d'ailleurs, je fais référence à ce qu'a dit Charles Prats, d'ailleurs, magistrat, bah, c'est connu.
Que de magistrat.
Qui d'ailleurs, oui, oui, mais tant mieux. Et qui d'ailleurs a rejoint la coalition, entre guillemets, entre le RN et les LR, puisque c'est eux qui ont le. L'air de M. Sauti, mais c'est eux qui ont le droit
Pardon,
de porter.
Pardon, on parle les chiffres et
oui, 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 et moi, il y a 40 milliards environ. Alors, ça dépend. La Cour des comptes est à 18 milliards à peu près, mais sur toutes les fraudes sociales, les fraudes évidemment aux prestations sociales, etc. Par exemple, en matière d'immigration mais, aussi.
Non, mais l'argent des fraudes. Non, mais c'est
mais ce sont des économies. Ce sont des économies. L'État n'a pas à les dépenser.
Tout le monde a envie de récupérer l'argent.
Non, mais l'État n'aura pas 40 alors, milliards à dépenser. Vous voyez ce que je veux dire?
Si. Bon.
Alors, donc, par exemple, non, un dernier mot, l'immigration. Les choix que nous avons, nous, en matière d'immigration, où on veut bloquer une immigration de masse. Eh bien, les clandestins, la première des choses qu'ils font en arrivant, évidemment, sur le territoire national, c'est d'aller vers des guichets sociaux. Vous voyez ? Et donc, notamment dans les conseils départementaux. Si nous bloquons cette immigration, comme nous voulons le faire, eh bien, là aussi, alors, il n'y aura pas toutes ces gabegies qui sont... Donc, alors, si vous voulez, voilà, donc,
je vais entendre Bertrand Martineau. Voilà. Malgré les reculs bardéliens du moment, Bruno Le Maire tire à boulet rouge sur les programmes du RN et du Front populaire. Je cite le ministre de l'Économie, « La victoire de nos opposants conduirait à la mise sous tutelle de la France. » Il en fait une tonne ou il y a du vrai ?
Bon, une mise sous tutelle, elle ne serait pas immédiate. On n'est pas dans la situation de la Grèce,
on est d'accord,
évidemment. Mais c'est vrai que la pente serait extrêmement...
La Grèce, elle s'est bien retapée. Hein.
Oui, mais alors, enfin, on ne va pas parler de la Grèce.
Bon,
enfin, c'est je rappelle que c'est un dirigeant communiste de stricte obédience qui est arrivé avec des annonces à plusieurs centaines de milliards d'économies de dépenses supplémentaires et que ça s'est terminé par une réforme des retraites parmi les plus dures de la réforme de l'OCDE.
Absolument.
Je pense, mais je ne connais pas personnellement M. Tsipras, je pense que ce n'était ni par conviction personnelle ni par souci d'être populaire qu'il l'a fait. Je crois qu'il l'a fait tout simplement parce qu'il n'avait pas le choix, parce qu'il fallait qu'il paye ses fonctionnaires à la fin du mois, en fait.
On peut se retrouver dans une situation pareille ?
On n'en est pas là, heureusement.
Bon,
on n'en est vraiment pas là. Mais c'est vrai quand même qu'aujourd'hui, il y a un minimum de responsabilité budgétaire qui est que quand on propose des dépenses supplémentaires ou des baisses d'impôts, le moins qu'on puisse faire, c'est d'indiquer en face quelles sont les économies. Et malheureusement, les économies sont souvent impopulaires. C'est ça le problème. Parce qu'en fait, derrière chaque niche fiscale, il y a un chien, c'est bien connu. Et puis, il faut arrêter de penser qu'une dépense, par exemple une dépense sociale, il n'y a personne qui la reçoit. Il y a toujours quelqu'un qui la reçoit, donc il y a quelqu'un de mécontent. Et si on n'arrive pas à diminuer et à réformer suffisamment ce pays sur le champ social, c'est précisément pour cette raison. Ce n'est pas parce que les gens sont incompétents ou ne veulent mal faire, c'est juste parce que c'est politiquement très difficile. Et ce serait très intéressant de savoir effectivement comment le Rassemblement National, je ne parle même pas de LFI, là on a fait péter toutes les limites évidemment, mais je voudrais bien savoir comment le RN arrive à prendre ces mesures difficiles. Je vais prendre un exemple.
Oui.
Vous voulez supprimer l'AME, la fameuse aide médicale d'État.
Non, je vais préciser. On va garder des mesures d'urgence.
Vous nous rappelez ce dont il s'agit ?
L'aide médicale d'État.
Merci.
Bon, c'est un peu plus d'un milliard, donc si vous la supprimez, ça fait une économie. Ok, bon, mais la question qui vient tout de suite quand vous connaissez un peu le sujet, c'est on la remplace par quoi ? Parce que tout simplement, en fait, les personnes, il va bien falloir les soigner quand même. Vous n'allez pas les laisser mourir dans la rue.
Donc, vous allez transférer une grande partie de cette économie en déficit des hôpitaux.
Le début
de votre raisonnement n'est pas bon.
Attendez, vous laissez terminer.
Plus généralement, il a été rappelé, notamment par Anne Lordelat. Enfin, vous voyez bien que les économies que je ne conteste pas, que vous mettez en face, ne sont pas de même grandeur, de même ordre de grandeur que les baisses d'impôts ou les dépenses supplémentaires que vous annoncez. Alors peut-être que si vous rétropédalez et qu'on gagne 10 milliards par jour pendant 15 jours, il est possible qu'on arrive à un budget équilibré. C'est très possible, effectivement.
Juste pour le dire vraiment très rapidement, d'un point de vue économique, le programme du RN n'est pas un programme. Il n'y a pas programme, en fait. Ben, il n'y a pas de programme, puisqu'en fait, on a deux mesures, à peu près, et pas de recettes en face.
Mais pas du
tout. Donc ça n'est pas un programme. Vous avez en face des programmes qu'on comprend un petit peu mieux, mais là, j'ai même du mal à faire les additions, en fait, parce que je ne vois pas, je ne retrouve pas mes chiffres.
Alors, c'est pas normal qu'on puisse faire les additions.
Est-ce que c'est possible que je puisse répondre ? D'abord, le début de votre raisonnement sur l'AME est complètement faux, parce que vous partez du principe que toutes les personnes qui se font soigner dans le cadre de l'AME ont besoin de soins.
Bah, en général, oui, quand on va à l'hôpital et qu'on a une pathologie grave,
monsieur,
en fait, c'est pas par plaisir.
Mais non, vous n'allez pas manifestement faire le tour dans les services d'urgence et autres.
Mais c'est un programme xénophobe. Ça n'est pas un programme économique, c'est un programme politique et xénophobe. Mais ça n'est pas un programme économique.
Non, mais ça vous gêne peut-être ce que je suis en train de dire, mais c'est la vérité. Vous savez très bien qu'il y a dans l'AME, et la Cour des comptes l'a dit aussi, voilà, encore une fois, dans la Cour.
Mais si,
il y a une part non négligeable des personnes qui sont en situation irrégulière, clandestinité, etc., qui vont se faire soigner dans le cadre de l'AME gratuitement, alors que, bien sûr, elles ne sont pas en situation d'urgence.
Quelle pathologie, par exemple ?
Alors, mais quoi, ben, vous avez toutes sortes de pathologies où les gens vont...
quel genre de choses.
J'en ai entendu parler. Alors voilà. Mais je n'ai pas. Je ne vais pas plus loin. Mais ne soyez pas comme ça, monsieur Consigny. Je vous dis les choses telles qu'elles sont. Alors ensuite, vous n'avez pas parlé, par exemple, de la contribution de la France à l'Union européenne. Bon, et là, il y a 2 milliards, oh, alors, 2 voilà. petits milliards.
Monsieur... Donc on ne contribue plus à l'Union européenne, qu'elle ne nous aide pas non plus.
Pourquoi caricaturer ? Nous faisons partie
parce
de l'Union européenne.
Parce que vous êtes une caricature. Laissez-moi expliquer. En fait, le budget français, il faudrait à peu près une centaine de milliards.
Laissez-moi terminer.
Ça s'équilibre.
Là, on en est à 2,80 milliards. Vous êtes une caricature, pardon.
Mais pas du tout. Mais notre contribution...
Non, mais là, je ne retrouve aucun chiffre. On a besoin de 100 milliards par an.
Nous n'avons pas
une le déficit public.
Nous ne donnons pas plus qu'on reçoit à l'Union européenne, oui ou non ?
Oui.
Nous donnons plus que nous recevons de l'Union européenne. Donc il y a un différentiel d'à peu près 10 milliards. France donne à l'Union européenne
en fait 10
milliards. Mais laissez-moi terminer. Donc il est simplement question de réduire de 2 milliards. Il n'est pas question. Donc on va continuer de donner 8 milliards à l'Union européenne alors qu'on reçoit.
Monsieur Garraud, non mais vous avez raison. L'Union européenne, c'est vrai qu'en ce moment, avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie, avec la Chine, avec les États-Unis, l'Union européenne, ça ne sert à rien.
Non, vous ne lancez pas ce débat.
Il faut réduire la contribution.
Historiquement, c'est un tout petit chantier,
l'Union européenne. La première urgence, c'est bien sûr de réduire la place de la Commission européenne.
On reste sur ces questions de budget, s'il vous plaît. Je comprends très bien votre remarque, mais on reste sur les questions de budget. N'en profitez pas, Jean-Paul Garraud. Astrid Panossian-Bouvet, excusez-moi.
Un budget, c'est des dépenses, mais c'est aussi de la capacité à créer de la recette.
Oui.
Et moi, j'aimerais simplement mettre en miroir ce programme ou ce budget dont on voit effectivement comment il est fait de rafistolage. Et les annonces, il y a encore un mois, au sommet de l'attractivité économique de notre pays, où vous aviez des investisseurs étrangers qui étaient prêts à mettre 15 milliards d'euros sur la table. 15 milliards d'euros, c'est des usines, notamment, je pense aux super batteries à Dunkerque ou à d'autres. Je pense qu'ils vont réfléchir à deux fois quand il y aura... Oui, bah vous savez combien représentent les entreprises étrangères aujourd'hui madame, en termes, c'est 2 millions de salariés. Je pense que ces projets d'investissement, notamment des projets d'investissement industriels, ils vont être revus quand ils verront votre programme.
Je pense qu'ils peuvent se poser la question.
Il y avait, moi j'entends les cris d'Auffray sur le macronisme depuis, mais il y avait quand même une stratégie de l'offre. Il y avait une
désindustrialisation de notre pays à cause de la politique que vous avez menée.
Elle date depuis 2017.
Mais oui, vous
pouvez nous laisser parler.
Tous les traités de libre-échange qui ont ruiné notre agriculture. Avez-vous 1000 milliards de dettes supplémentaires qui font
Je constate votre respect de la parole.
Vous faites la leçon avec vos 1 000 milliards de dettes supplémentaires.
J'aimerais entendre Astrid Panossian-Bouvet jusqu'au bout, même si ça vous
déplaise. La raison pour laquelle la France est devenue un des pays les plus attractifs en termes d'investissement étranger en Europe, c'est précisément parce qu'il y a eu, depuis 2017, une cohérence dans la politique de l'offre vis-à-vis des entreprises.
La dégradation de la note de la France.
Je vous parle de climat d'investissement étranger.
Vous ne le soutenez plus.
Écoutez, s'il vous plaît. C'est-à-dire que vous contestez et les chiffres et les additions données par l'économiste, mais également le fait qu'il y a des projets d'investissement étrangers sur la table. Moi, j'aimerais bien savoir.
La France se trouve dans la situation dans laquelle elle est.
Je vous parle de ces projets d'investissement.
Mais
vous vivez dans une autre réalité, en fait, monsieur. Vous vivez vraiment dans une autre réalité.
Bertrand Martineau, s'il vous plaît.
Là, on parle de l'urgence. On ne parle pas d'un projet à 5 ans.
Bon, absolument.
J'ai compris que les choses...
Qu'est-ce qu'on fait dans les premiers mois?
J'ai compris que les dizaines de milliards sur les retraites, etc., ce sera pour les calendes grecques. Bon, très bien. Bah, c'est peut-être le dire.
Il y a une date qui est donnée.
Oui, enfin, c'est 70 milliards.
C'est pas la calende.
Bon, enfin bref. Et vous avez... On parle des mesures d'urgence. Donc, très concrètement, vous avez un projet de loi de finances à déposer fin septembre.
Rectificatif,
au Parlement. Ou même rectificatif avant.
Rectificatif, oui. Un projet de loi rectificatif qui sera déposé, évidemment.
Bon, un projet de loi rectificatif.
Bertrand Martineau.
Voilà, un projet de loi rectificatif. Il vaut mieux qu'il soit équilibré parce qu'on ne va pas encore aggraver la situation des finances publiques. Et ensuite, vous aurez un PLF, un projet de loi de finances qui sera le moment de vérité. Bon. Et là, puisqu'on parle d'urgence. Il y a des questions effectivement de pouvoir d'achat très clairement. Pourquoi pas baisser des TVA après tout? Pourquoi pas? Enfin, moi personnellement, je pense que c'est pas efficace, mais c'est pas un problème idéologique, vous pensez bien. Moi, j'adore les baisses d'impôts de manière générale. Bon, c'est peut-être pas celle-là qu'il faudrait faire, mais bon. Mais très concrètement, les conséquences économiques, il y a un sujet de taux d'intérêt. Voilà. Vous allez avoir un problème si vous dégradez les finances publiques et que le consensus des marchés, c'est que ces finances ne sont pas soutenables, ne sont pas sur une trajectoire soutenable, vous allez avoir un violent ressaut des taux d'intérêt. Et là, vous allez avoir deux sujets qui sont terrifiants. D'abord, l'emballement des charges d'intérêt de l'État. Et puis, il y a quelque chose dont on ne parle pas, et de manière générale, dans cette campagne, on n'en parle pas, sauf quelques rares exceptions, les entreprises. Parce que quand vous avez des hausses d'intérêt sur les entreprises qui vont se répercuter sur les taux, les crédits bancaires en particulier, vous allez tuer les entreprises. Si vous allez avoir un énorme problème sur les entreprises. On n'est pas dans la théorie. On n'est pas dans la théorie.
Donc,
c'est pour ça que. Non, non, mais sans aucune.
À les protéger, sans aucune. À les débarrasser.
Attendez, non, mais attendez, monsieur. Sans aucune polémique. Non, mais voilà. Je ne parle même pas du sujet RN ou de LFI ou de qui que ce soit. Je dis juste que. Si vous n'avez pas un comportement responsable sur les finances publiques, vous, mais ça, qui que ce soit au pouvoir, risque d'avoir des lendemains qui vont déchanter très fortement et très rapidement.
Ça touchera aussi, bien entendu, les foyers français.
En fait, c'est ça, je crois qu'il faut être vraiment très concret. C'est-à-dire qu'effectivement, le crédit bancaire va augmenter et donc le crédit immobilier va augmenter. En fait, ce n'est pas simplement déficit public pour du déficit public, parce qu'à la limite, ça, moi, voilà, c'est une question technique, ça. Mais là, il y a une vraie question de... pouvoir d'achat, c'est-à-dire que vous faites une promesse aux classes populaires et aux classes moyennes d'améliorer leur pouvoir d'achat, ça n'est pas financé. Donc ça veut dire que vous allez être obligé soit de baisser d'autres dépenses qui en fait finançaient des services publics, de la protection sociale, et ça, c'est du pouvoir d'achat, soit vous ne le faites pas. On dégrade les finances publiques, il y a une augmentation du taux d'intérêt, mais ça, c'est directement dans la poche des ménages parce que le crédit immobilier augmente tout de suite.
Alors, c'est tellement
j'ai 15 secondes à vous donner.
Non, mais c'est tellement excessif tout ce que vous me dites que ça, ce n'est pas crédible. J'en suis désolé.
Des additions très simples, monsieur.
Non, non, mais sur les.
C'est,
non, mais moi, je voudrais vous donner.
C'est plus facile d'analyser votre
de politique
votre
parce que vous n'avez pas compris que tout ceci, ce n'est pas une adjonction de chiffres. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a la politique derrière. Par exemple, quand on veut supprimer l'impôt sur la fortune immobilière, parce qu'on veut que la transmission se fasse immobilière, et qu'on veut le transformer en impôt sur les profits financiers, ben cela est une décision politique qui est importante et qui va se répercuter sur le pouvoir d'achat de tous nos concitoyens qui vont pouvoir transmettre à leurs enfants leur patrimoine
en immobilier. Et on se quitte sur cette notion.
C'est très important.
Merci à tous.